c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Mathilde. Cette semaine a eu lieu au festival, le Festival des livres gourmands à Périgueux. Par rapport à notre émission, nous pouvons dire que l'Amérique latine est depuis longtemps dans nos assiettes. Donc, tout ce que vous mangez pendant le festival vient du continent latino-américain. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour donner quelques idées historiques de ces plantes venues du Nouveau Monde.
Oui, les transferts de végétaux d'un continent à l'autre commencèrent très tôt, dès le retour du premier voyage de Christophe Colomb. Des navigateurs ramenèrent des graines de maïs qui furent à l'origine de la première culture de blé d'Espagne en 1494, dans la province de Séville. Les découvreurs de l'Amérique furent stupéfiés de voir que les Indiens ne connaissaient aucune de leurs céréales, ni blé, ni orge, ni riz, pas davantage d'oliviers, d'agrumes ou de canne à sucre. Dans ces nouveaux territoires, les mœurs alimentaires étaient tout à fait nouvelles pour ces navigateurs. Au Mexique et dans la Mésoamérique, chez les Aztèques, la nourriture était fondée sur la trilogie maïs, haricots et cucurbitacées diverses. Au nord de l'Amérique du Sud, Pérou et Inca, le maïs et la pomme de terre étaient à l'honneur. À ces végétaux s'ajoutaient, selon les régions, la tomate, le piment, l'avocat, la patate douce, l'arachide, le manioc, mais aussi le cacao, la vanille, l'ananas, la papaye. Ces plantes vivrières, reflet de la spécificité de la végétation du continent américain, étaient inconnues en Europe il y a 500 ans. Quel chemin parcouru depuis ! Lorsqu'en 1492, Christophe Colomb aborda les rivages des Caraïbes, croyant atteindre les Indes, il était bien loin de se douter que sa découverte allait révolutionner nos habitudes, notamment sur le plan culinaire. C'est en effet du Nouveau Monde que nous viennent des produits qui nous semblent aujourd'hui bien de chez nous, comme la tomate, le maïs, l'avocat, la pomme de terre, la vanille, le chocolat, la fraise. Les ingrédients et les techniques culinaires de l'Ancien et du Nouveau Monde se sont interpénétrés et ainsi sont apparues au fil des années les recettes que nous connaissons aujourd'hui. Les uns et les autres ont appris à utiliser ces nouveaux ingrédients, les ont intégrés dans leur cuisine traditionnelle jusqu'à en oublier l'origine. Notre mémoire alimentaire est très courte. Elle se limite souvent aux saveurs et aux produits découverts dans l'enfance. Si nous faisons un effort, nous remontons dans un très lointain passé, c'est-à-dire seulement aux souvenirs d'enfance de nos grands-parents. C'est pourquoi la cuisine du 19e siècle ou du début du 20e siècle nous semble une cuisine qui a toujours existé, celle que nos ancêtres ont toujours mangée depuis la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps, n'est-ce pas? Bon, on a des souvenirs de ce qu'on a mangé quand nous étions enfants, c'est bien ça?
Oui, mais oui, sûrement.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique, mais nous allons vous donner quelques détails de quelques produits qui viennent de là-bas, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, oui, dont l'ananas. Voici donc ces produits qui sont consommés avant le 19e siècle parce qu'ils proviennent tous d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. L'ananas appartient à la famille des Broméliacées. Cette famille comprend un grand nombre d'espèces utilisant les arbres comme support. Beaucoup sont cultivés comme plantes ornementales. L'ananas est originaire d'une vaste aire géographique couvrant le sud du Brésil, le Paraguay et le nord de l'Argentine, poussant aussi bien dans des zones sèches que dans les forêts humides du bassin amazonien. C'est à partir de là que, par le jeu des migrations des Indiens Tupi-Guarani et par celui des échanges entre tribus, l'ananas aurait gagné l'Amérique centrale. La savoureuse partie charnue de l'ananas est constituée par l'axe portant les fleurs. Ce fruit contient une enzyme, le broméline, aux vertus amincissantes selon certains diététiciens.
Oui, on pourrait ajouter que Jean Delery, en français, donc, qui a été au Brésil, dans son journal de veau en la terre du Brésil, donc, en 1557, cite la plante, l'ananas, qui produit les fruits nommés par les sauvages ananas. Il écrit ensuite, je cite donc Jean Delery, « Et au reste, quand ces ananas sont venus à maturité, ils sont de couleur jaune, azurée, et ont une telle odeur de framboise qu'en allant par les voies et autres lieux où ils turquoise, on les sent de fort loin. De plus, ils fondent dans la bouche et sont naturellement si doux qu'il n'y a qu'un futur en ce pays qui les surpasse. Je tiens donc que c'est le plus excellent fruit de l'Amérique, des Amériques en fait.
Bien, maintenant on va passer aux épices.
Oui, on va parler du piment, que souvent on parle d'espelette, mais ça vient
piment
aussi.
D'espelette, oui, mais à l'origine, voilà. Le piment appartient à l'espèce Capsicum, originaire d'Amérique centrale et des régions tropicales d'Amérique du Sud. Il fait partie de la famille des Solanacées, comme la tomate, la pomme de terre ou le tabac. La domestication du piment est très ancienne, jusqu'à Tehuacan, au Mexique. Des capsicums apparaissent déjà 7500 ans avant Jésus-Christ, soit 2500 ans avant le maïs. Parti chercher des épices et du poivre noir, Christophe Colomb trouvera du poivre rouge aux Amériques. C'est en effet du piment qu'il a découvert à Saint-Domingue, plante que l'on nommera poivre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, les épices importées étaient extrêmement chères et constituaient un signe d'élévation sociale. C'était aussi un plaisir rare, capable de relever des plats souvent très fades. Le piment remplacera ainsi le poivre d'Inde, inaccessible aux bourses modestes, et deviendra le poivre du pauvre. Le piment fut la seule épice découverte dans le Nouveau Monde, mais elle fera la conquête de toutes les cuisines du monde, du paprika hongrois au curry indien, du pil-pil ivoirien au harissa maghrébin.
Oui, merci pour ces précisions sur le piment, mais nous allons parler aussi
de la fraise.
Voilà, la fraise. On parle beaucoup de la fraise ici en Bourgogne, et voilà.
La gariguette était une fierté française depuis 50 ans, mais d'où vient la première fraise de la table ? Du Chili. Le fraisier a débarqué d'Amérique du Sud dans les bagages d'un espion de Louis XIV nommé Fraisier. En 1711, le roi Soleil confie à Amédée François Fraisier, officier du génie maritime, la mission de se rendre au Pérou et au Chili pour servir de conseiller militaire aux colonies espagnoles. Le monarque vient de placer son petit-fils sur le trône d'Espagne, mais secrètement, le roi de France charge Amédée François de rapporter le plan de toutes les places fortes et le maximum d'informations sur les colonies. Donc en 1712, l'espion royal débarque à Concepción, au Chili. Accueilli à bras ouverts, Fraisier sillonne la côte pacifique durant 2 ans. Or, cet ingénieur de 29 ans est un fondu de botanique. Il visite l'arrière-pays, s'intéresse aux coutumes locales et aux plantes cultivées. C'est ainsi qu'il découvre dans les champs des fraises énormes et blanches. Il n'avait jamais rien vu de tel en France. Fraisier décide d'en rapporter quelques plants en France. Cette fraise géante fera la fortune de Plougastel d'Aoula, dont le climat ressemble à celui de la côte chilienne.
Voilà, donc c'est confirmé que ça vient d'Amérique du Sud, le Chili. Mais il y a eu après plusieurs variétés à cause des plantations à Plougastel, n'est-ce pas ?
On a mentionné en Bretagne,
Plougastel,
souvent, oui.
Voilà. Donc, mais nous allons faire peut-être une petite pause musicale. Thank you.
Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord.
Oui, et nous allons parler brièvement de un autre produit, c'est un fruit en fait, n'est-ce pas? La tomate, c'est un fruit. Et elle est originaire du Mexique. L'ancêtre de la tomate cultivée pourrait être une variété de type tomate cerise. La tomate a été décrite en 1544 par le naturaliste Petrus Andreas comme un produit dangereux, apparenté à la mandragore. Elle fut longtemps considérée comme une plante médicinale et un peu toxique. On l'appelle alors pomme d'or ou pomme d'amour. Elle restera pomme d'or en italien. Pomodoro, en fait, en italien. La tomate arrive en Europe via Naples, alors catalo-aragonaise. Voilà, donc catalan et aragon, tu es à Naples. Puis remonte l'Italie vers Gênes avant d'arriver à Nice et en Provence. D'après Emmanuel Leroy Ladurie, la tomate s'est acclimatée en Languedoc à partir de 1590. Voilà, donc ça c'est un aperçu de la tomate, mais on peut préciser encore qu'en réalité la tomate va mettre un certain temps avant d'être un légume acceptable pour l'ensemble de l'Europe. Mais en dehors de l'histoire de la tomate, Mathilde va consommer à midi.
Oui.
Nous avons aussi un poème d'un poète chilien, prix Nobel de littérature, Pablo Neruda.
Oui, il a écrit une ode à la tomate. La rue s'est remplie de tomates. Midi, été, la lumière se coupe en deux moitiés de tomates. Dans les rues, le jus coule. En décembre, la tomate se déchaîne, envahit les cuisines, s'introduit dans les repas, s'assied calmement sur les buffets, parmi les verres, les beurriers, les salières bleues. Elle a une lumière propre, une majesté bénigne. Nous devons par malheur l'assassiner. Le couteau plonge dans sa pulpe vivante. C'est un rouge viscère. Un soleil frais, profond, inépuisable, elle emplit les salades du Chili. Elle se marie allègrement avec le clair oignon. Et pour fêter ça, on laisse tomber l'huile, fille essentielle de l'olivier, sur ses hémisphères entrouverts. Le poivre ajoute son encens, le sel son magnétisme. Ce sont les noces du jour, les patates bouillent vigoureusement, le rôti frappe de son arôme à la porte, c'est le moment, allons.
Et en espagnol, ça donne ça, Oda al tomate. La calle se llenó de tomates, mediodía, verano, la luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre se desata el tomate, invade las cocinas, entra por los almuerzos, se sienta reposado en los aparadores, entre los vasos de mantequilleras, los saleros azules. Tiene luz propia, majestad benigna. Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente, en una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable, llena de ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo se deja caer aceite, hijo esencial del olivo, sobre sus hemisferios entreabiertos. Agrega la pimienta su fragancia, la sal su magnetismo, son las bodas del día, las papas hierven vigorosamente, el asado golpea con su aroma en la puerta. ¡Es hora! ¡Vamos!
We'll be right back.
allons parler brièvement d'une autre plante qui vient de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud.
Oui, il s'agit de la vanille, Vanilla planifolia, et d'une orchidée tropicale, liane parasite des arbres des jungles d'Amérique centrale et du nord de l'Amérique du Sud. La vanille est le fruit de cette orchidée. On fait bouillir les gousses, puis on les sèche. Cela donne cette tige noire et parfumée que l'on connaît. La culture de la vanilla fragant, la plus parfumée, fut très difficile à réussir hors de sa zone d'origine.
Oui, la vanille est un terme qui s'applique à quelques 110 espèces différentes. La vanille fait partie de la famille des orchidacées, comme tu viens de dire, n'est-ce pas?
Oui.
Les fruits secs ou bouillis dégagent un fort parfum dû à la présence de vanilline. Dans l'air d'origine, le Mexique, les fleurs de vanille sont pollinisées naturellement par une petite abeille, la mélipone. Les vanilleurs peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les tiges cylindriques portent sur toute leur longueur des feuilles alternes, grandes et charnues. Les fleurs d'environ 8 cm de largeur forment de courtes grappes. Le fruit ne sent rien lors de sa récolte. Ce n'est qu'après avoir été ébouillanté et avoir subi une fermentation que la capsule acquiert son arôme. Voilà donc ce que nous pouvons dire de la vanille. Mais il y a beaucoup d'autres produits en dehors de le piment, de ce qu'on a parlé. On a le maïs. On ne va pas parler de maïs aussi parce que ça serait trop long. Mais n'oublions pas que les pop-corn, combien d'autres plats que se font avec le maïs, quoi d'autre
Oui, tu n'as pas un plat chilien qu'on fait avec le maïs?
Oui, mais bon, pas
comment
seulement.
Ça s'appelle?
Mais le maïs, il est employé un peu partout dans le monde, non? Par exemple, on nous dit ici que la domestication du maïs remonte à 5000 ans avant Jésus-Christ. Certains savants pensent que le maïs est le produit d'une sélection opérée à partir de théocines, plantes sauvages apparentées au maïs. Pour d'autres, maïs et théocinte seraient issus d'un ancêtre commun. Toutes les civilisations de la Mésoamérique, Olmec, Huastec, Toltec, Maya et Aztec, cultivaient le maïs, qui constituait la base de leur alimentation avec les haricots et la courge. Voilà, la courge aussi vient de là-bas, n'est-ce pas?
On l'appelle la également... courge, la citrouille, la chayotte.
Oui, on l'appelle également blé d'Inde. Et pourquoi, alors, c'est curieux l'anecdote d'Inde. Par exemple, on parle des cochons d'Inde, parce qu'au départ, Christophe Colomb pensait aller découvrir l'Inde, et c'est comme ça qu'on appelle les Indiens, qui ne sont pas Indiens de l'Inde. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à préciser là-dessus, mais nous allons nous arrêter là. Et on passe à la musique. Notre émission touche à sa fin, l'émission L'Autre Amérique en fait touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir de la culture et l'agriculture et les plantes venues du Nouveau Monde. Et nous allons continuer à découvrir l'histoire, la géographie et d'autres aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos sur les plantes et merci à la technique à Mathilde. Muchas gracias, hasta pronto.